changed that graphic by about a year or 2 years since we've gotten the depth yet. Yeah. Now we have new stuff in the guidebook. But there's some like says the new stuff, like it all the new stuff.
Okay, and then there's
this, and then I start with it.
Is there a new trend slide?
Yeah, when it says they went to the divider, then I think. That's the agenda. Yeah.
So I can start with a slide and I'll start talking first.
Yes.
Okay. All right. Just be careful because the cables are not taped down.
Okay.
Right there, so.
Good morning, everybody. Can we take seats?
Bonjour tout le monde. Prenez vos asseyez-vous. On vous remercie d'avoir pris du temps pour venir à cette session pour voir quels sont les progrès qui ont été faits dans la mise en place des mécanismes de protection des droits. Nous espérons que vous allez obtenir des informations. Vous pourrez aussi poser des questions à la fin de la session. Cela va décrire le travail qui a été fait et la préparation pour le lancement des nouveaux GTLD et l'initiation de ces mécanismes de protection de droits et donc tout le travail qui va être fait de façon détaillée. Nous allons discuter la mise en place du clearinghouse de marques déposées qui inclut les services de validation de marques déposées et l'administration des services d'administration de données pour les nouveaux registres, le système de suspension rapide uniforme et enfin et les acronymes ésotériques qui sont au-delà presque des limites de ICANN, des processus de post d'après litige qui sont des remèdes pour ceux qui ont besoin donc d'un remède contre les nouveaux registres directement au lieu que ce soit les registrants individuels. Ce sera opéré sous des normes très sérieuse. Est-ce que le son est bon ou c'est moi qui suis au mauvais endroit? Ça va mieux. Merci. Ce groupe sait que je pense que ce programme nouveau GTLD sera fait suivant les recommandations des politiques du GNSO qui ont été débattues pendant 19 mois durant beaucoup de réunions. Et il y a eu 19 recommandations de politique. Une de ces recommandations était que les nouveaux GTLD ne devraient pas dépasser les droits des autres, les droits existants des autres, légaux des autres. Et les guides, le manuel du GNSO que nous avons reçu a déterminé que la protection des droits légaux doit aussi protéger les marques déposées et ainsi de suite. Et cette recommandation est aussi la mise en place des conseils que nous avons reçus du GNSO. Cela donc nous a permis de démarrer cela et de façon à faire sortir donc tout cela. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Nous avons créé une équipe de recommandations avec des experts de politique de propriété intellectuelle qui viennent du monde entier, qui se sont rencontrés beaucoup de fois, beaucoup de téléconférences, de téléphones, beaucoup de courriels qui a débouché sur un mécanisme qui sont dans le manuel maintenant. Voilà donc ces recommandations de RIT, IRT, avec la discussion et commentaire de la communauté et encore ICANN, une fois encore, a créé une autre équipe et pour une équipe de révision spéciale pour les marques déposées, avec donc des experts. Un groupe constitutif qui est très large, du GNSO aussi, et des gens de la LAC, dont les nouvelles exigences de ce groupe sont donc reflétées dans l'accord des nouveaux GTLD. Ce qui n'est pas sur cette diapo, c'est ces mécanismes de protection des droits ont été discutés en détail au sein du directoire et aussi beaucoup des membres. Ces mécanismes ont donc été améliorés après cela. Et donc, voilà donc un diapo qui a déjà été vu. Donc, c'est peut-être un déjà vu pour vous. Ces mécanismes peuvent être divisés en plusieurs parties pour couvrir la vie des registres. Donc, il y a plusieurs mécanismes de protection qui sont pré-lancés à travers la clearinghouse des marques déposées en reconnaissant il y a Sunrise qui sont proposés et ensuite un autre ensemble de mécanismes de protection des droits qui vont rentrer après que les opérations des registres rentrent se mettent en marche. Il y aura le post-délégation, le DRP. Les UDRP qui existent déjà vont rentrer en jeu une fois que les registres ont établi les opérations. Cet ensemble de mécanismes de protection augmente ce qui existe déjà. Donc, cette diapo reflète ce que je viens de dire, ce qui décrit un peu le graphe que je viens de vous montrer. Donc, je pense que déjà, dans cette réunion, nous avons entendu des inquiétudes de cette communauté à propos de certaines de ces mises en place. On a entendu dire que la mise en place, c'est très important qu'elle soit faite bien faite, que ces mécanismes, pour s'assurer que ces mécanismes fonctionnent, qu'elle doit être mise en place d'une façon qui doit réaliser les objectifs qui ont été mis en place par les gens qui ont travaillé à l'élaboration de ces concepts. Et ils nous font donc des plans de mise en place de ces concepts. Donc, elle doit être responsable, doit pouvoir atteindre beaucoup de personnes et que les plaintes IP ne doivent pas être sur la voie, enfin, des obstacles, que tout soit géré d'une façon à ce que ce soit efficace. Alors, et aussi que cela maintienne aussi un certain modèle de business des registres, que l'URS réalise les objectifs va être moins cher et plus rapide. Que le rôle des PDP soit clair aussi. Donc, encore une fois, nous allons à l'avant sur l'ordre du jour de tout cela. Il y a plus à dire sur le centre d'information sur les marques. Mais nous voulons vous dire où nous en sommes. Donc, je vais passer le micro à Karen, qui est le directeur de la recherche des politiques et des informations de Alakan. Elle va nous parler des statuts de notre prochain plan. Nous avons aussi Amy qui est là, qui est au conseil à Cannes. Elle est aussi là pour répondre à vos questions si vous en avez après. Elle a fait aussi beaucoup, beaucoup de travail sur la mise en place de tous ces mécanismes. Donc maintenant, je vais passer le micro à Karen et la remercier pour ce qu'elle va faire. Et encore une fois, merci pour être ici dans cette session. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la prochaine diapo? Merci. Bon, je voudrais faire une révision pour vous, le travail, ce qui se passe pour le clearinghouse de marques déposées. Il y a beaucoup de travail qui se passe en ce moment dans beaucoup de problèmes qui en sont sortis, mais je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible durant cette session. Donc, pour revoir ce que le clearinghouse représente, c'est un repositoire pour cet mécanisme de support, de protection des droits qui sont offerts par les registres nouveaux GCLD. On s'attend qu'elles soient opérées par une tierce partie à travers un accord avec ICANN. Elles remplacent le besoin pour les trademarks, pour enregistrer dans plusieurs dates de données alors que les TLD sont lancées. Et ça a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de fonctions. Une fois, c'est d'identifier, valider les données des marques de données et aussi de fournir Sunrise et les services Sunrise et des plans de marques déposées. pour entrer dans les détails, dans ces deux requêtes, exigence, Sunrise a été créée. C'est donc un pré-lancement, une phase de pré-lancement. Ça vous donne l'opportunité d'enregistrer les DNS dans un TLD avant l'enregistration. C'était généralement disponible au public. Au niveau de Sunrise, il a l'entrée donc régulière des données dans le clearinghouse et ensuite il y a une autre étape qui demande à ce que ces taux soient validés avant de pouvoir utiliser la marque avant l'enregistrement de Sunrise. Il faut aussi donc obligatoire pour tous les nouveaux GTLD au moins 30 jours. Le processus Sunrise qui est envisagé qu'une fois que quelqu'un est enregistré durant cette période, les déteneurs qui ont mis des données recevront donc un avis d'enregistrement. Ce sera basé sur les règlements dont on va parler. Mais ensuite, le service de plainte des membres déposés, c'est aussi une nouvelle exigence. Cela va donc être un avis qui va être envoyé. Et les services de plainte aussi envoient des avis aux déteneurs qui ont mis leur nom dans les bases de données. Et est-ce qu'il y... Tous ces marques de déposés sont donc peuvent obtenir les services qui sont proposés. Aussi, il est obligatoire que cela dure à peu près au moins 60 jours. Voilà donc une représentation simple de comment ces services de plainte marchent. La personne va donc commencer à enregistrer un nom de domaine. Il y a donc une recherche qui est faite à travers le clearinghouse pour voir si ça correspond à quelque chose dans le clearinghouse. S'il n'y a pas d'autres noms qui correspondent, cette personne peut compléter son enregistrement comme d'habitude. S'il y a une correspondance, on envoie donc un avis au registrant qu'il y a déjà cette marque déposée dans le clearinghouse. Donc, il faut, s'il décide de continuer, il y a un avis qui est généré et donc qui est envoyé à la personne qui a déjà qui est déteneur de ce droit. Donc, en termes de comment ICANN va mettre en place cette clearinghouse, il y a deux travaux qui sont faits. Il y a donc une manière de fournir les services, une sélection d'un ou deux fournisseurs pour les services de clearinghouse. Et ensuite, il y a l'élaboration des processus de soutien pour le clearinghouse. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont incluses dans ce système, les registres, les registraires, tous les gens qui enregistrent des DNS. Donc, il y a beaucoup de détails afin que l'on puisse créer ces processus. En termes de sélection des fournisseurs, nous avons publié une requête, une exigence d'information en octobre. Nous avons reçu beaucoup de bons détails, des soumissions. Nous avons revu tout cela. Nous avons eu des discussions avec les candidats. Nous complétons maintenant ce processus de sélection. Je pense pouvoir annoncer que les fournisseurs de très, très bientôt. Et ensuite, du côté de l'élaboration des processus, je voulais vous dire que nous avons eu dans les deux dernières réunions à Singapour, après le programme de nouveau GTLD a été approuvé, et ensuite à Dakar, nous avons eu une discussion très utile avec beaucoup de gens dans la communauté qui nous ont donné beaucoup de conseils, qui nous ont aidés à mettre en place ce plan. Et je pense que nous montrer comment ces processus pourraient fonctionner. Nous essayons de continuer sur ce chemin. On a donc un groupe d'assistance qu'on appelle IAG, le groupe d'assistance de mise en place. Nous avons commencé en novembre 2011. C'est un groupe ouvert. Il est ouvert aux gens qui veulent bien être bénévoles et travailler sur ce sujet. Le but de ce groupe était de fournir des conseils sur les processus au niveau technique, tous les problèmes de mise en place et ainsi de suite. Ils n'ont pas été, on a été leur tâche était pour de fournir une base et de travailler sur les différents problèmes. Donc l'objectif sous ce processus c'était pour que ICANN livre un ensemble d'exigences pour tous les fournisseurs de services. Donc le IAG a à peu près fini, accompli son travail à peu près. Nous avons groupe assez important de gens, il y avait à peu près 50 volontaires, bénévoles, tout le monde n'était pas inclus dans tous les problèmes, dans toutes les questions, dans les arguments, mais nous avons travaillé sur les problèmes, donc nous avons décrit certaines des options qui étaient disponibles en termes de comment quelque chose pourrait être mis en place, et on a demandé des commentaires, et il y avait des soumissions écrites, et nous avons eu aussi des coups de téléphone, des téléconférences. Nous avons discuté certains des suivis, des feedbacks qu'on a reçus. Maintenant, nous avons donc complété ce cycle sur les problèmes qui avaient été proposés donc pour la discussion. Et maintenant, nous rassemblons toutes ces informations, nous faisons des analyses pour créer un modèle. Nous attendons à ce que ce soit publié à la fin de ce mois-ci. Et donc, si vous êtes intéressé, le lien que vous trouvez en bas de cette diapo est la page wiki où tous ces matériaux seront publiés. Il y a les enregistrements des téléconférences, les briefings. Et aussi la liste de courriels, la liste de noms. Et ensuite, vous ne pourrez peut-être pas le lire, mais c'est une liste de tous les sujets qui ont été discutés au sein de l'IAG, les problèmes techniques et les processus, les problèmes de processus de business, commerciaux donc. Donc, en allant de l'avant vers les problèmes qui ont été encore une fois discutés durant les derniers mois, je voudrais faire une révision rapide des critères pour l'inclusion dans le clearinghouse. C'est déjà publié dans le manuel de l'applicant du candidat. Les critères sont donc quelque chose doit être nationalement enregistré du côté national ou régional et doit être validé par une cour légale et par un élément légal. Il doit être protégé par un statut ou un traité, en effet, au moment où la marque est déposée et soumise à la clearinghouse pour l'inclusion. Et comme je vous l'ai dit, une des fonctions du clearinghouse, c'est de faire donc l'authentification, la validation des données de marques déposées quand ils nous sont donnés. Donc, c'est un processus de validation. Donc, les buts sont... donc les règlements pour ces processus devraient être clairement spécifiés, devraient être disponibles avant la soumission. Si quelqu'un doit aller soumettre ses données, ils doivent savoir en avance quels sont les processus qui vont être utilisés pour que la révision soit faite. Nous voulons avoir des résultats qui soient prédictibles et constants, et nous voulons aussi un processus qui soit efficace et qui soit facile à utiliser et qui soit disponible à toutes les régions globales. Et ensuite, pour clarifier la terminologie, comme on utilise beaucoup ces mots, comment on utilise l'authentification, c'est la base. C'est la ligne de base. Donc, pour être le clearinghouse, il faut que toutes les bonnes données soient authentifiées. Donc, c'est clearinghouse a établi que les informations soient originelles, que ce soient les bonnes informations. On a parlé de validation aussi. Donc, c'est une autre étape. Les validations incluent donc l'établissement de la preuve d'utilisation, dont on parlera tout à l'heure, sont aussi utilisés afin de regarder les droits qui soient basés sur les statuts ou sur donc traités ou le côté légal. En regardant le processus d'authentification, l'idée c'était de créer quelque chose qui soit simple et qui Les éléments qui ont été discutés sont là sur cette diapositive. Il y a le nom donc de la personne qui fait sa soumission, qui demande son admission, le demandeur, les informations de ce contact. Il y aura beaucoup de notes d'avis qui vont aller d'un côté de l'autre. Il faudrait qu'il y ait au moins minimum une adresse courriel, une vérification des adresses courriel pour être sûr que les informations sont correctes, les informations de ce contact. Il y a aussi une déclaration que quand quelqu'un soumet donc les données, que cette information soit vraie et courante. Et il y a aussi le numéro de registre d'enregistration dans quelques juridictions que ce soit. L'INRAS devra confirmer ces chiffres qu'ils correspondent, tous ces nombres, ces chiffres soient pertinents. Nous sommes bien au courant du fait que beaucoup de juridictions ont des données disponibles, sont des données disponibles en ligne sur si les marques déposées ont été déposées donc dans ces juridictions. D'autres ne le sont pas. Dans les deux cas, l'objectif est que le processus soit simple et qui est un traitement équivalent dans toutes les juridictions. Donc, que le processus soit simple tout de même et assez facile d'accès. Et ensuite, en regardant la validation pour la preuve d'utilisation, il faut qu'il y ait une seule norme qui soit disponible à tout le monde avant que ces personnes soumettent leurs données pour qu'il y ait validation. Il y a une déclaration ici. En addition de la déclaration que tout le monde fait, que cette marque déposée les soumissions soient soumises de manière qu'il y ait une notification au cas où cette marque soit abandonnée. Il y a aussi le spécimen d'utilisation, par exemple les labels, les étiquettes, les containers, les matériaux de marketing, de publicité, les brochures et ainsi de suite. Mais le modèle contemple ici pour la validation, c'est simplement la déclaration et l'utilisation de spécimens. Un autre sujet qui nous occupe beaucoup de temps dans les discussions, ça a été le processus de plainte de marques déposées et spécifiquement comment ces avis ont été publiés, surtout s'il y avait donc une correspondance quelque part et comment ça a pu être publié au registrant potentiel. Donc il y aura il y a eu des attentes. Je me dis, les gens avaient des idées différentes de comment ils allaient envisager comment tout cela allait fonctionner. Il y avait des gens qui pensaient qu'il allait recevoir un message email qui pouvait aller vers les registrants potentiels. Et ce qui en est sorti de ces discussions, c'est que la façon la moins intrusive et plus efficace, c'était de publier les avis sur l'écran durant le processus d'enregistrement. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de gens qui étaient, beaucoup de groupes qui étaient inclus dans ce processus. Il y avait donc des rôles différents pour les registres, les registrants, les registraires. Il y a eu aussi des discussions à propos de comment on allait s'assurer, comment on allait pouvoir suivre et pour voir s'il y avait des questions dans l'avenir. Est-ce qu'on peut retourner, vérifier que ces avis avaient bien été mis en place, bien été publiés et que le registrant avait bien pu en prendre connaissance avant. Donc c'est logiquement un processus compliqué et complexe. Il y a eu des inquiétudes qui ont été exprimées par les registres et les registraires sur le fait que d'avoir peut-être un nouveau personnel dans ce processus que ça pourrait être un problème pour les registrants dans le processus de registrant. On a pris ça en compte dans le design du processus. Je pense que il y a un modèle qui va être créé. C'est une des choses c'est un peu une des requêtes que nous avons reçues. Comment nous allons nous assurer que les choses ne sont pas ralenties à cause de cette étape qui est donc en train de s'établir. OK. Ce qu'on appelle les règlements de correspondance, c'est autre chose que nous avons discuté la semaine dernière. En regardant les définitions qui est dans le manuel actuellement, dans ce qu'on a eu dans les discussions de communautaires, les sunrise et les marques déposées ont été basées sur des correspondances identiques. Il doit être exactement la même texture dans les éléments de la marque déposée et des caractères spéciaux. Si les marques déposées peuvent être épelées avec, par exemple, des symboles et ensuite la ponctuation ou les choses qui pourraient être dans une marque déposée qui ne sont pas des caractères valides. Ou qui peuvent être remplacés par d'autres caractères. Et ensuite, les pluriels. Le sujet de la discussion récemment, qui est toujours ouvert d'ailleurs pour commentaires, c'est comment cela sera mis en place, comment ce règlement sera mis en place en différentes langues. Par exemple, une marque déposée qui a le signe Inde et le symbole de E. Et s'il y a une question qui, dans différentes langues, ça peut faire une différence. Pour déterminer donc une correspondance, la question est arrivée dans quelle langue ou quelle langue. Et par exemple, aux États-Unis, en Costa Rica, je peux faire X, Y. Il y a donc plein de problèmes pour voir quel langage est pertinent. On y travaille encore et c'est toujours ouvert à la discussion. Un autre sujet qui est donc arrivé dans les discussions, c'était les résolutions des litiges. Dans chacun de ces processus, on va avoir besoin de mécanismes pour résoudre les plaintes ou pour regarder, pour voir comment on va agir, quelles actions vont être prises. C'est une étape, ce sont des stages assez larges. Comme vous voyez qu'il y a des plaintes qui ont à voir avec l'enregistrement de certaines données dans le clearinghouse. Et ensuite, il y a des problèmes qui ont à voir avec Sunrise et aussi avec des problèmes qui ont à voir avec les services de plaintes de Trademark. Vous ne pouvez peut-être pas lire tout ce qui est là, mais ce sera certainement publié en ligne. C'est juste pour illustrer. C'est la charte que nous avons regardée quand nous discutions tous ces problèmes. Il y a quelques semaines, je pense, on essaie de voir quels sont tous les différents litiges qui puissent arriver, survenir durant ce processus, de quoi les gens pourraient se plaindre, quels seraient les gens qui pourraient initier ces litiges et voir quel serait le mécanisme approprié à considérer dans chaque cas pour ces problèmes différents. Donc, la plupart du temps, nous avons fait un plan pour ce que nous pensons serait quelque chose sur lequel nous pourrions, qui pourrait fonctionner en termes des plaintes pour les marques de déposer. On a décidé que beaucoup de cela dépendrait de quelle partie a la responsabilité et pour envoyer un avis ou tout dépendra de comment la chose sera mise en place. C'est aussi un sujet qui a occupé beaucoup d'attention.
Dans les discussions, je voulais également mentionner quelques principes qui sont des thèmes qui reviennent sans arrêt sur la manière d'aborder des questions et la meilleure solution. L'un thème était la proximité. Cela signifie que donc chaque partie en général devrait communiquer avec les parties qu'ils avaient déjà un rapport. si je suis, j'enregistre les noms de domaine, je devrais aller au registraire et communiquer à travers le registraire. Et si on me dit que je dois aller à un autre, quelque part d'autre pour faire une autre démarche, ce n'est pas vraiment un bon résultat. Si je reçois des avis provenant d'un pharmacie que je ne connais pas bien, ce n'est pas également la situation idéale. Donc, on essaie de garder ce principe en tête lorsque nous concevons ce système. Également, l'accès des données a été discuté en long et en large. En qualité de base de données, il y a beaucoup d'informations contenues dans le centre d'information. Dans l'ensemble, il y a des soucis qui ont été exprimés, des détenteurs de droits, sur le fait que beaucoup de parties aient accès à des données agrégées pour être utilisées pour des abus ou des fins concurrentielles. Donc, chaque partie devrait avoir accès à des données limitées, uniquement aux données dont vous avez besoin pour mener vos fonctions dans le système. Uniquement ces données devraient être accessibles. J'ai abordé là-dessus également. Nous avions l'objectif de la soumission et renouvellement des dossiers de centres d'information ne devrait pas être trop compliqué, et la mise en œuvre, le travail de mise en œuvre pour les registres et les registres, cela beaucoup dépend de la mise en œuvre de registres et de registraires. Cela ne devrait pas être trop compliqué au niveau de la mise en œuvre. Les projets ne devrait pas être trop compliqué sur la manière de créer des projets. Il y en aura probablement des difficultés, mais le commentaire était que les protocoles existants et les processus existants devraient être employés chaque fois que cela est possible. Finalement, ce n'est pas les dépenses du centre d'information n'ont pas été discutées pendant l'AIG. Mais cela a été discuté pendant cette semaine, à long et large. Pour rappeler ce que le modèle dans le guide du candidat, les dépenses devraient être encourues par les parties utilisant un service. Donc, le détenteur de marque devrait payer au moment où ils sont en train d'enregistrer les données. Et les registres devraient payer pour les transactions de revendications dans Sunrise chaque fois que cela est possible. Donc, le modèle devrait également payer pour cela. Donc, il faudrait avoir davantage de détails là-dessus. Donc, on essaie d'avoir cela pour le publier le plus vite possible. Le modèle de prix devrait être peaufiné avec le fournisseur de services. Nous allons continuer avec l'URS. Comme cela a été mentionné au départ, nous avons analysé ces projets de manière chronologique quant à la date à laquelle ils avaient besoin d'être créés. Le centre d'information est quelque chose qui devait être mis en œuvre au moment du démarrage pour tous les nouveaux registres. Donc, nous avons passé beaucoup de ressources. D'abord, l'URS devrait être mise en œuvre une fois que les gens enregistrent les noms et les nouveaux TLD et la résolution de disputes post-délégation devrait également être disponible. Brièvement, l'URS devrait être un complément à l'UDRP actuel. Il devrait permettre un mécanisme rapide pour éliminer les noms en violation dans les cas où la violation est claire. Une plainte URS couronnée de succès déboucherait sur une élimination de noms de domaine en violation. Donc, en termes de plan de projet pour celui-ci, nous travaillons sur l'URFP pour les fournisseurs URS et cela devrait être publié rapidement. Et les dépenses envisagées dans le guide, c'est environ $300. C'est quelque chose qui devra être travaillé avec le fournisseur, les services, et en termes de la manière dans laquelle nous progressons sur ce plan de projet. Nous allons bien sûr communiquer avec la communauté là-dessus. Nous allons informer la communauté. Finalement, nous avons le PDDRP, donc la procédure de résolution des disputes post-délégation de marques de commerce. Tout cela est en cours d'amélioration. Nous essayons, c'est encore un recours pour des détenteurs de marques lorsqu'il y a des problèmes systématiques de l'enregistrement de noms de domaine en violation. Donc, ce serait une plainte qui pourrait être enregistrée à l'encontre de l'opérateur de registre. Ici, nous imaginons que les plaintes seraient soumises auprès d'un tiers fournissant des services de résolution de disputes, et on pourrait suggérer un recours si la plainte aboutit. Le recours dépend de ce que décide le panel, et ils iraient jusqu'à suspendre, dans les cas très graves, suspendre l'accord de registre. Donc, tel était nous avons passé en revue le travail sur les mécanismes de protection de droits. Nous avons quelques minutes pour les questions. Si vous voulez prendre un microphone au milieu de la pièce ou soumettre une question par participation à distance, et j'ai mon collègue qui peut enregistrer sa question, donc je répondrai à vos questions. Merci. Bonjour, John Berryhill. Après avoir suivi l'IRT, STI et les autres acronymes dans ces différents mécanismes d'il y a quelques années, le Centre d'information de marques de commerciales, peut-être que je suis fou, mais j'en pensais au début, et cela s'était présenté, ce serait une base de données, un outil sur lequel une couche de politique pourrait être ajoutée. Je suis un peu curieux. Comment est-ce que ce concept d'une base de données qui pourrait être utilisée pour soutenir un nombre de politiques, des politiques à grande perspective ou à faible portée. Vous parlez de correspondance, des outils de correspondance, donc des correspondances identiques. Et on a vu des Sunrise en .info et .co. Ils ont adopté plusieurs règles de correspondance de caractère. Dans un environnement où vous aurez plusieurs langues, des TLD spécifiques à des marchés, je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir une base de données de marques de commerce disponibles, pourquoi cela devient une empêche si peut-être que TLD veut aller au niveau international. Peut-être qu'il veut, si j'ai point chaussures, et il y a une marque commerciale pour Jim's Shoes, les chaussures de Jim, et ils vont, beaucoup de marques sont comme ça, ils vont inclure les marchandises dans le cadre de cette marque. Beaucoup de marques ne sont pas créées en anticipation de ce centre de formation. Steve va m'adorer. Si je gère point chaussures, nous prenons des correspondances identiques. Si vous pensez que Coca-Cola sera, que les gens cherchent les chaussures Coca-Cola, mais dans Sunrise point chaussures, si vous êtes une marque déposée qui inclut chaussures, on va vous laisser avoir Jim, et c'est parce que la marque est la chaussure de Jim, de Jim's Shoes. Donc je ne comprends pas. Je pensais que l'argument, c'est d'avoir la base de données sur laquelle des politiques intelligentes pourraient être élaborées et gérées. Est-ce que j'ai complètement jeté sur une autre planète pendant ce temps qu'il y a le centre des formations va prescrire les règles de correspondance et que je ne pourrais pas donner de protection plus large par rapport à celle de ces règles si restrictives. Si c'est Sony Pictures et j'ai Point Pictures, d'accord, le centre d'information permet d'avoir Sony Pictures, Point Pictures, et quelqu'un pourrait enregistrer Sony Point Pictures, c'est leur marque. Donc, je serais intéressée à savoir où les prescriptions de politique est arrivée de concept de base de données et sur quelle planète je me trouvais à ce moment-là. Premièrement, en termes de règles de correspondance, ils existent dans le guide de l'applicant. La définition de correspondance identique a déjà été établie. La question de flexibilité et ce que les registres veulent faire a surgi plusieurs fois, pas seulement là-dessus, également pour Sunrise. On a ces exigences minimales, mais si je veux avoir différents types de Sunrise, donc cela a été discuté et le défi est de concevoir un modèle Sunrise qui est assez flexible pour faire ce qu'il est. On lui demande de faire en fonction de cela par rapport à ce qu'on nous a donné et permettre au registre de pouvoir mettre en œuvre les choses qu'ils veulent et qu'ils doivent faire dans leur propre TLD. Et oui, je suis désolée. C'était l'information qui me manquait. Est-ce que vous allez fournir au moins cela parce que certains TLD vont être plus difficiles que d'autres. Il y aura des gens qui cherchent point movies. Et on va point film, et on va entendre Steve en parler là-dessus. On avait l'impression que vous allez faire cela et pas plus, mais je crois que cela doit être clair que la base de données va soutenir des concepts plus larges qui sont appropriés à ce qu'un TLD est en train de cibler au point de vue au moins sémantique. Et les remarques de John sont très bonnes. Il y a beaucoup de choses arbitraires. Dans le guide d'appliquant, par exemple, 60 jours, les contains, ce serait une bonne opportunité lorsque vous changez beaucoup de parties du guide du candidat. Ce serait bien de permettre davantage de flexibilité là-dessus également. Bon, non, je t'affronte court. Pourquoi est-ce que nous avons un accès confidentiel ou limité des bases de données? Est-ce que les gens devraient savoir, limite l'accès aux bases de données? Si un abus peut être commis, est-ce qu'on peut avoir d'exemples d'abus qui pourraient être commis et une manière de mettre une correspondance pour faire une correspondance à l'abus et la question associée, est-ce que nous faisons une base de données centralisée alors qu'il n'y a pas besoin d'être centralisé? La première question, d'après moi, porte sur pourquoi il faut qu'il doit y avoir une instruction à l'accès à la base de données. Beaucoup de marques de commerce sont disponibles publiquement, les informations là-dessus, et les détenteurs de marques peuvent décrire des descriptions sur les préoccupations mieux que moi. Ce qui a été exprimé était que le fait d'avoir des informations, une marque n'est pas forcément ne crée pas de tort à quiconque, mais si vous avez l'accès de toutes ces données, vous pourriez discerner des stratégies ou pouvoir utiliser les données pour d'autres objectifs considérés comme abusifs. Voilà un exemple de ce qui a été exprimé. En termes de centralisation, de distribution, comment cela se fonctionne techniquement? Je ne sais pas si Francis est dans la pièce, mais c'est quelque chose que nous avons tenu compte, comment créer quelque chose de stable, efficace et fiable. Vous voulez commenter? Merci. Francisco Arias, personnel avec nous travaillons sur l'élaboration d'une proposition sur la manière de savoir fonctionner techniquement. Nous analysons cette question, nous essayons de solutionner ce problème. À la fin du mois, nous devrions être fixés, mais nous considérons, par exemple, pour le DNS, nous aimerions utiliser le DNS de manière à transmettre les données pour avoir une copie des données et pour résoudre les problèmes qui ont été soulevés par les détenteurs IP, de ne pas montrer toutes les informations à un parti particulier. On pense à utiliser, par exemple, NSEC3, qui est un programme pour le DNS. Nous pensons à ce problème et nous sommes en train de trouver une manière. Et Ruben, j'espère que Kohul, si une marque TLD met en œuvre un URS équivalent, un système équivalent à l'URS, est-ce qu'il a encore besoin de se fier sur ICANN? L'URS est exigé pour tous les nouveaux GTLD, donc lorsque des décisions sont prises sur les noms et les TLD, ils doivent être mis en œuvre en correspondance. Donc, cela revient à la première question. Est-ce que les registres peuvent élaborer des choses spécifiques qu'ils veulent faire dans leur TLD? J'imagine que je me référerai au contrat d'enregistrement pour tout ce qui se rapporte à cela. J'ai une seconde question. Celle-ci porte dit Imran Hamid Shah. J'aimerais demander à une question. Si une organisation, une entreprise ne dispose pas d'un IP international, mais c'est dans son propre pays, ils ont une marque enregistrée et une marque commerciale déposée. Quel type de droit est-ce qu'il a dans le contexte d'une demande de nouveau GTLD? Comment cette cas sera traité alors qu'il n'y a pas de conflit avec des marques internationales? Je vais répondre de plusieurs manières. J'ai l'impression que la question porte sur les droits dans le contexte du processus d'évaluation de demande d'application. Et j'ai l'impression qu'il y a un processus d'objection sur les droits qui est disponible dans le module 3 du guide en termes des droits sur les marques déposées du guide du centre d'information. L'objectif du concept est que ce soit disponible à personnes qui ont des droits dans les circonscriptions à travers le monde. Bonjour, Anne Ekman Scalis. J'ai une question sur les propriétés intellectuelles. J'ai deux questions de clients et la première est en rapport avec les discussions IAG. Est-ce qu'il y a des discussions sur des vérifications possibles, la preuve de l'utilisation, par exemple, en connexion avec Sunrise, basée sur la vérification d'une déclaration d'utilisation qui serait déjà on file dans le pays d'origine? Est-ce qu'il y a une discussion sur le streamlining dans cette méthode? Si je m'en rappelle, pendant le développement de l'idée, le modèle qu'on avait trouvé pour plusieurs raisons, c'était que la soumission d'une déclaration et d'un spécimen. Et je pense que, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais un des problèmes qui a été discuté, c'est que nous parlons de beaucoup de différentes circonscriptions qui auraient différentes pratiques. Et ce qu'on aimerait fournir dans un centre d'information était quelque chose de très simple que tout le monde pourrait faire et utiliser les mêmes règles de mesure pour les données en fonction, peu importe d'où son origine. Seconde question se rapporte à la résolution des disputes. et également avec hypothétique avec une période Sunrise. Si j'ai un client, il y a une vérification de l'enregistrement, mais si le centre de formation rejette le spécimen d'usage, et j'ai vu sur la charte d'un processus de recours d'appel quel est le recours ultime pour la décision finale du centre d'information des marques déposées. Si un client n'est pas en mesure de sécuriser l'enregistrement de retour, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le centre d'information devrait être autant que possible d'avoir une fonction administrative et ne pas prendre des décisions juridiques sur les droits de cette personne. Et nous l'avions ici dans Sunrise, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un enregistrement Sunrise pourrait être rejeté. Donc, il y a un processus pour examiner cela. Bonjour, Krishna Rosetta, IPC. Parfois, votre réponse était très bonne. Je voulais élaborer sur quelques autres arguments. La première chose, c'est que, en général, le cas que les données d'enregistrement de marques ne sont disponibles, mais ce ne sont pas forcément disponibles en ligne. Et je dirais que 70% des pays, ces informations ne sont pas disponibles en ligne. Donc, il faut embaucher un avocat ou bien aller directement au bureau pour obtenir les informations. Il y a une différence de coût si vous avez un détenteur de marque qui avait un enregistrement pour une marque dans 80% des pays où vous pouvez sécuriser un enregistrement de marque pour obtenir une firme commerciale, un rapport. Cela demanderait environ 5 jours d'ouvrables et 20 000 $. Donc, la préoccupation ici, c'est que ce n'est pas l'intention ici de créer non seulement quelque chose qui est en concurrence avec ses services commerciaux, mais cela permettrait à quelqu'un d'avoir une possibilité de répliquer le portefeuille pour identifier une stratégie de marque. Ou un autre problème, c'est d'identifier où le détenteur de marque n'a pas encore d'enregistrement et pour l'extorquer là et faire un enregistrement là-bas. Merci, Karen. Ici, Chen Chao de .AGA est l'un des entités participantes du MTCH. Christina a posé des questions se rapportant. Une question que je voulais poser sur le coût. Est-ce que vous pensez que un des applicants TLD doit indiquer ou avoir une estimation quant au montant quel montant un registre particulier va dépenser et combien il va pour utiliser le MTCH. Donc, pour le moment, nous n'avons pas assez d'informations pour avoir une estimation sur les coûts d'un registre pour utiliser le service TMCH. Donc, ça, c'est une chose. Et peut-être que vous voulez commenter? Donc, la question que je vous ai dit pose sur l'application GTLD et mettre sur pied les informations financières sur la manière de justifier les coûts d'utilisation du centre d'information. Vous ne savez pas combien ils sont à s'élèvent. Je pense qu'il faut donc pour fournir une estimation et expliquer les différents articles de les différentes dépenses dans ce modèle. La seconde question est plutôt de type conceptuel. Vous avez mentionné un processus compréhensif d'avoir soumis au cours du processus et le nombre d'appels et de conférences qui ont été faites. Donc, la question que j'ai, après avoir vu d'autres commentaires, des présentations, est-ce que le modèle centralisé, pour le moment, est l'objectif à 100% ou bien est-ce que vous avez des alternatives ou d'autres hypothèses qui pourraient être l'ensemble ou une partie, je veux dire, de la structure, soit pour la base de données, pour la validation, qui pourrait être décentralisée. Cela dépend de la manière de définir ce qu'un modèle décentralisé est, mais l'objectif de la banque d'information et on veut qu'il soit accessible partout et avec une grande qualité à travers les régions. Quelle est la meilleure manière de mettre cela en œuvre? Est-ce que c'est une entité centralisée qui surveille toutes les opérations ou bien que cela soit distribué de différentes manières? Je pense que je ne dirais pas que c'est 100%. Ce n'est pas encore décidé à 100%, mais c'est l'exigence de fournir un accès global est très importante. Philippe Cornwell, Internet. Philippe Cornwell, Access, Isit. Je suis ici pour exprimer l'espoir que nous allons voir quelque chose bouger comme Écoute à Dakar. On espère voir la mise en œuvre de cela. Comme dit Écoute, il avait dit dans un mois à Dakar que cela sera mis en œuvre pour les URS. Donc, jusqu'à présent, on était toujours crédule que $300 soit réaliste, vu ce que les avocats IP demandent pour leurs services et vu et des processus similaires de mise en œuvre par le NAF pour le registre XXX, ils sont tellement coûteux, c'est presque le même prix que pour un URDP. La grande différence est la rapidité du processus. Et finalement, par rapport aux éléments de l'URES, nous n'avons pas commenté sur le premier tour sur les enregistrements de défense parce que l'avis ICT a été très clair que la question n'était pas sur le niveau, le top level, mais beaucoup de personnes dans la communauté des marques l'ont utilisé comme opportunité pour suggérer davantage de changements dans le URS qui serait tourné vers un taux réduit du RDP qui soit supposé être un supplément, pas un substitut. Merci. Merci. Et c'est correct, malheureusement, vous n'avez pas vu beaucoup sur l'URS, mais nous travaillons et nous analysons cela, surtout par rapport au prix pour sécuriser et discuter avec les fournisseurs qui pourraient être en mesure de fournir cela. Bonjour, je suis de l'Autriche, Toretti, Richard Weekend. Merci pour vos commentaires sur la base de données, sur les informations. Nous avons cette nouvelle procédure aura un grand impact. Comment est-ce que cela pourrait marcher pour décrire ces procédures avant le 12 avril? Est-ce que vous ou ICANN, donc en d'autres termes, est-ce que c'est nécessaire de décrire cette nouvelle procédure pour le centre d'information dans cette demande ou pas? Donc, c'est pour préparer une demande d'application pour les nouveaux GTLD. Le centre d'information est en phase de développement. Comment tout cela peut être pris en compte? Je ne pense pas que l'application demande comment le centre d'information va travailler. Il est requis que tous les registres fournissent le Sunrise et les revendications de marques déposées. Donc, en termes de détails opérationnels, comment cela va fonctionner? Je crois que ce qu'il faut montrer, c'est comment vous êtes préparé, vous vous engagez à les mettre en œuvre. Il faut décrire toutes les procédures, comment vous allez les satisfaire. Si on ne sait pas comment le processus va fonctionner, on ne peut pas le décrire. C'est un problème qui ne finit pas. Je comprends. Je ne veux pas donner de conseils ici. Les instructions dans toutes les questions devraient être aussi complètes que possible là où il y a des choses qui ne sont pas définies. Expliquez la raison pour laquelle vous avez établi quelque chose ou arrangé quelque chose de manière particulière. On a dépassé un peu l'heure. Donc, on aura Paul et ensuite les questions à distance et ensuite on va clore. Merci. Ma question se rapporte à l'explication de Christina Rosette pour laquelle une clearinghouse ne peut pas être en ligne. Si j'ai bien compris, elle semble dire que c'est afin de protéger les charges des avocats. Est-ce que c'est correct? Les honoraires des avocats. Non, Christina parlait des circonscriptions existantes et comme certains ont des données de marque en ligne, certains n'ont pas et parfois les gens embauchent des avocats pour rechercher ces données. Par l'idée que mettre les choses en ligne permette aux gens de discerner les stratégies d'entreprises qui ont on a eu 15 ans où cela se produit déjà, et pendant 15 ans, les gens enregistrent des noms de domaine, déclarent leur stratégie, et maintenant, ICANN est en position, vu la mauvaise qualité des droits aux enregistrants de noms de domaine, jusqu'à ce présent, de ce que j'ai vu, n'importe qui peut venir et tirer le tapis sous les pieds des gens qui opèrent ou qui prévoient d'opérer des opérations existantes en volant le registre .com actuel. Je ne suis pas sûre que cela ait été abordé. Est-ce que nous pouvons connaître la situation actuelle du processus clearinghouse de marques déposées? La question porte sur la sélection des fournisseurs que j'ai couvert dans une diapositive précédente. Je ne peux pas commenter sur le processus. Je ne peux dire que le processus a été publié. Nous avons reçu des soumissions. Et nous effectuons la sélection maintenant. Et nous allons annoncer quelque chose bientôt. Et dernière question est de Samantha Demitro. J'ai une question sur la période de Sunrise. Est-ce que j'ai bien compris que les nouveaux registres GTLD doivent fournir une période Sunrise. Mais je suis curieux de savoir si ICANN va tenir compte, va considérer la possibilité d'amender cette exigence pour les nouveaux opérateurs de registres GTLD qui prévoient d'opérer des registres uniques ou des GTLD fermés, tels que des détenteurs de marques qui appliquent pour un dot brand GTLD et prévoient de l'utiliser uniquement pour des fins internes. Par rapport à cette question spécifique, j'imagine que c'est une question la plus fréquemment posée. Il y a un article dans le domaine clientèle GTLD. Peut-être que vous pouvez vous référer là-dessus pour une discussion. Merci d'être venu. J'espère que l'information vous a été utile et j'espère que vous aurez une bonne journée. Merci.